Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougou avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du mardi 18 février, l'ambassadeur de la RDC à l'ONU dénonce l'inaction et l'attentisme du Conseil de sécurité après la prise de Bukavu par le M23. Le président du Congo-Brazzaville dit craindre une guerre régionale dans l'est de la RDC. La souffrance est épouvantable, ce sont les mots de l'ONU qui a lancé hier un appel de 6 milliards de dollars pour fournir une aide cruciale à la population du Soudan ravagée par une guerre civile. L'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, assure à Bruxelles que les États-Unis n'imposeraient pas un accord à Kiev pour mettre fin à la guerre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio poursuit sa tournée escalière en Arabie Saoudite où il s'est entretenu avec le prince héritier Mohamed Bin Salman. Au Bénin, la question d'un éventuel troisième mandat du président Patrice Talon continue d'agiter les débats politiques.
L'alternance permet de découvrir de nouveaux talents. On vante les qualités du président Talon aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu alternance, est-ce qu'on aurait découvert ?
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. En sport, le Cameroun démarre en fanfare le tournoi UNAFAC des moins de 17 ans. Les détails dans une dizaine de minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. La République démocratique du Congo a dénoncé hier soir l'inaction et l'attentisme du Conseil de sécurité de l'ONU au lendemain de la prise de Bukavu par le groupe armé M23 allié à l'armée rwandaise, selon une lettre vue par l'ASP. Mon gouvernement est indigné de constater que le Conseil de sécurité, paralysé par on ne sait quelle maladie, n'a pu être en mesure de se prononcer et ce en dépit de la gravité de la situation, écrit l'ambassadeur congolais à l'ONU, Zeno Mukongo Ngei, dans ce courrier adressé au Conseil. Il demande dans sa lettre une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui l'appelle à agir de manière décisive et immédiate. Kinshasa réclame au Conseil d'exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, demande des sanctions de l'ONU contre Kigali et un embargo sur les exportations des ressources naturelles en provenance du Rwanda. Justement, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a exprimé ses inquiétudes concernant une possible guerre régionale dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceci alors qu'à Bukavu, capitale du Sud-Kivu, le calme semble revenir malgré des scènes de pillage après la prise de la ville par le M23. Le point avec Eric Manirakiza.
Dans un entretien avec une chaîne française, Denis Sassou Nguesso a souligné l'importance du dialogue entre Kinshasa et Kigali pour éviter l'escalade du conflit. On peut craindre une guerre régionale, a affirmé le chef de l'État, tout en misant sur la sagesse africaine pour éviter d'en arriver là. Il a également évoqué son rôle potentiel dans la médiation, affirmant que les Africains doivent rester au cœur des discussions. À Bukavu, la situation est chaotique avec des pillages massifs et des tensions locales. Les habitants tentent de reprendre leurs activités malgré l'insécurité persistante. Le M23 a pris le contrôle de Bukavu après avoir occupé la ville de Goma fin janvier. Le Burundi a indiqué hier lundi que près de 10 000 personnes avaient trouvé refuge sur son territoire ces trois derniers jours. L'Ouganda et le Burundi voisins, mais aussi l'Afrique du Sud, ont déployé des troupes dans la région en appui à l'armée congolaise. Le M23 a exigé samedi dans un communiqué le retrait immédiat des soldats burundais présents dans le sud Kivu. L'ONU et l'Union africaine appellent à la désescalade, mais les appels à un cessez-le-feu restent sans réponse. Le M23, soutenu par le Rwanda, semble déterminé à avancer, aggravant la situation de la RDC déjà fragilisée.
L'ONU a lancé hier un appel de 6 milliards de dollars afin de fournir cette année une aide cruciale à la population du Soudan, ravagée depuis avril 2023 par une guerre civile, mais aussi aux millions de Soudanais ayant fui leur pays. Le point avec Eddy Sangou.
L'objectif est de fournir une assistance à près de 26 millions de personnes au total, ont souligné l'Agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, et l'Agence chargée des réfugiés, les HR, dans un communiqué commun. Le Soudan est une urgence humanitaire d'un niveau choquant, a déclaré le chef humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, dans un communiqué. La famine s'installe, les violences sexuelles font rage, des enfants sont tués ou blessés, la souffrance est épouvantable. Les affrontements entre les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, de Mohamed Hamdan Daglo et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, deux anciens alliés devenus rivaux, ont fait des dizaines de milliers de morts. L'armée contrôle l'est et le nord du Soudan. Les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, une vaste région de l'ouest de ce pays où vivent un quart des 50 millions de Soudanais. Depuis le début de la guerre civile, quelques 12 millions de personnes ont été déplacées, dont 3,5 millions qui ont fui les Soudans. Deux tiers de la population ont besoin d'une aide urgente confrontée à la famine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a assuré lundi à Bruxelles que les États-Unis n'imposeraient pas un accord à Kiev pour mettre fin à la guerre. M. Kellogg est attendu mercredi en Ukraine pour une visite de 3 jours au cours de laquelle il doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mohamed Oumfa.
En visite lundi au siège de l'OTAN à Bruxelles, Kate Kellogg a affirmé qu'il revient aux Ukrainiens de décider d'un accord de paix avec la Russie. Zelensky est le dirigeant élu d'une nation souveraine et ses décisions sont les siennes et personne ne les imposera à l'encontre d'un dirigeant élu d'une nation souveraine, a-t-il souligné. La rencontre entre les pays de l'Alliance et M. Kellogg a été l'occasion de poser un certain nombre de questions selon les diplomates. Les alliés européens ont ainsi cherché à savoir quel serait l'appui américain à une éventuelle force européenne dans le cadre des garanties de sécurité qui seraient données à l'Ukraine en cas d'accord de paix, a expliqué l'un d'entre eux. Les Européens redoutent également d'être laissés pour compte d'un éventuel accord. Le déplacement de M. Kellogg intervient alors que les États-Unis et la Russie vont se rencontrer mardi à Riyad en Arabie Saoudite. En l'absence de responsables européens, M. Kellogg a confirmé qu'une participation européenne n'était pas envisagée, mais a souligné que les Européens seraient informés.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce matin qu'une paix durable en Ukraine devait s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles. Après des appels téléphoniques avec des présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky, nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. À cette fin, la Russie doit cesser son agression, a écrit Macron sur X à l'issue d'une réunion à Paris de dirigeants européens. Zelensky a de son côté déclaré sur X que son homologue français l'avait informé des discussions avec les dirigeants européens et qu'il partageait une vision commune de la manière de parvenir à la paix. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu lundi avec le prince héritier Mohammed bin Salman, dirigeant de l'Arabie Saoudite, dans le cadre de la première tournée du haut diplomate du Moyen-Orient. Ce mardi, diplomates américains et russes discuteront à Riyad de l'Ukraine. Alexandrine Holoyon.
Marco Rubio était accompagné du conseiller à la sécurité nationale, Mike Walls, et de l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Au menu de cette visite en Arabie Saoudite, des discussions avec la Russie sur l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les discussions pourraient porter sur la fin de la guerre en Ukraine et sur le rétablissement de liens plus larges entre la Russie et les États-Unis. Marco Rubio doit également discuter du plan du président Donald Trump qui prévoit que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza et déplacent ses habitants palestiniens ailleurs. Riyad, qui participe également à des discussions avec Washington sur l'avenir de la bande de Gaza, a joué un rôle dans les premiers contacts entre l'administration Trump et Moscou en aidant à obtenir un échange de prisonniers la semaine dernière. Washington a indiqué que Rubio, Walls et Witkoff rencontreraient ce mardi une délégation russe comprenant le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Riyad avant une future rencontre sur l'Ukraine entre Trump et Poutine dans la capitale saoudienne.
Ici aux États-Unis, au moins 14 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues dans l'est du pays, dont 12 décès dans le seul état du Kentucky, qui fait face à de graves innovations depuis plusieurs jours. L'annonce est faite par le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. Le gouverneur démocrate avait indiqué la veille que la plupart des victimes s'étaient retrouvées coincées dans leur véhicule ou sous la montée des eaux. Une tempête qui mêle vent violent, inondations, fortes pluies et bientôt des températures glaciales a touché plusieurs autres États de l'Est américain. Le conseil municipal de New York a appelé hier à la démission d'Eric Adams, maire démocrate de la mégalopole américaine. Les appels à la démission du maire de New York se multiplient depuis que le ministère de la Justice a demandé au procureur d'arrêter les poursuites contre Adams dans une affaire de pot de vin. Eric Adams exclut toute idée de démission et rejette les accusations de corruption dont il fait l'objet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Les nouvelles économiques à présent, et nous retrouvons Nanit Talani pour la Minute Éco.
Les négociants en cacao de la Côte d'Ivoire cherchent à réorganiser leurs contrats avec des acheteurs majeurs en raison de la hausse des prix du cacao, ce qui pourrait les conduire à vendre à perte. Ils demandent à ce que les contrats existants soient réaffectés car ils ne peuvent plus les honorer au prix convenu. La production de cacao a été impactée par des conditions climatiques défavorables, entraînant des prix plus élevés que ceux garantis par le Conseil Café Cacao. La Chine bénéficie de ses investissements miniers en RDC avec une forte hausse des importations de cuivre. En 2024, les expéditions de cuivre raffinées en provenance de ce pays ont augmenté de 71%, atteignant 1,50 million de tonnes. Kinshasa est désormais le principal fournisseur de cuivre raffiné de la Chine, modifiant la dynamique du marché mondial. Pour terminer, le comité des créanciers d'Éthiopie a critiqué le dernier rapport du FMI, affirmant qu'il exagérait un problème de solvabilité alors qu'il s'agirait plutôt d'une question de liquidité. Le rapport sous-estime les progrès économiques de l'Éthiopie, notamment dans les secteurs de l'or et du café. Le pays, ayant fait défaut sur sa dette de 1 milliard de dollars en 2023, attendait un plan de sauvetage du FMI avant de commencer des réformes importantes. Le FMI et le gouvernement éthiopien n'ont pas réagi.
Sans transition, l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Le tournoi de l'UNIFAC des moins de 17 ans pour commencer. Le Cameroun démarre en fanfare. La RDC, elle, triomphe du Gabon.
Le Cameroun a ouvert le tournoi UNIFAC U17 en s'imposant largement 9-0 contre la République centrafricaine, tandis que la RDC a battu le Gabon 3-1. Lors de la deuxième journée, le Gabon affrontera le pays hôte et la République centrafricaine jouera sa survie contre la RDC. Ce tournoi désignera les deux représentants de l'UNIFAC pour la CAN U17 2025 au Maroc. Le champion évoluera dans le groupe B en compagnie du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, tandis que le deuxième ira dans le groupe D avec le Mali, l'Angola et la Côte d'Ivoire.
Toujours par rapport à la CAN des moins de 17 ans, l'Ouganda est dans le groupe de la mort, mais Seyondo reste ambitieux.
Le sélectionneur de l'Ouganda U17, Brian Seyondo, a exprimé ses préoccupations après le tirage au sort de la CAN U17 2025 au Maroc, où son équipe se retrouve dans un groupe difficile avec le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. Malgré la difficulté de cette poule, Seyondo reste ambitieux, soulignant la réputation de ses adversaires et l'avantage du pays hôte. La compétition du 30 mars au 19 avril 2025 est un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U17.
Et puis le Guinéen Serou Guirassy en route pour la Coupe du Monde des clubs.
Bien que la Guinée ne participe pas à la CAN 2025, Guirassy se concentre sur son prochain grand défi, la Coupe du Monde des clubs 2025 avec Dortmund. Malgré son souhait de jouer pour le Sidi National, il continue de briller en Ligue des Champions où il est actuellement le meilleur buteur avec 10 buts. À 28 ans, l'attaquant guinéen s'affirme comme l'un des meilleurs avant-centres d'Europe.
Ligue des Champions ce soir en Europe avec le programme des matchs retour des barrages d'accession aux 8e de finale.
Ces rencontres se dérouleront les 18 et 19 février. Ce mardi, l'AS Milan recevra Feyenoord Rotterdam à 18h45 avec un retard de 1-0 à l'aller. À 21h, Benfica Lisbonne affrontera Monaco menant 1-0 après le premier match. Le Bayern Munich accueillera Celtic Glasgow avec un avantage de 1-1, tandis qu'Atalanta Bergame jouera contre Club Brugge en déficit de 1-2. Et demain, mercredi, Dortmund aura un large avantage face à Sporting Portugal, 3-0 à l'aller dès 18h45. Paris Saint-Germain, également avec un score de 3-0 en sa faveur, affrontera Brest à 21h. Le Real Madrid accueillera Manchester City avec un score serré de 3-2 pour les Espagnols à l'aller, tandis que le PSV Eindhoven devra inverser une défaite de 1-2 face à la Juventus Turin. Tous les regards seront une nouvelle fois tournés vers le choc entre le Real Madrid et Manchester City, les vainqueurs des deux éditions précédentes.
Il est à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères depuis 2005, a été élu samedi à Addis Abeba à la tête de la Commission de l'Union africaine lors d'un sommet des chefs d'État africains qui s'est limité à appeler au retrait immédiat des rebelles du M23 des villes récemment conquises dans l'est de la République démocratique du Congo, sans citer le Rwanda qui les soutient. Le président angolais João Lourenço prend la tête de l'organisation et laisse de ce fait son fauteuil de médiateur de la crise entre Kinshasa et Kigali à d'autres chefs d'État qui devraient être désignés. Comment les Congolais ont-ils reçu ce message et quelles sont leurs attentes? Eddy Sango a joué à Liège en Belgique Bamba Dilelo, professeur de sciences politiques à l'université de Liège.
En fait, les Congolais dans leur ensemble, à mon sens, sont préoccupés par la situation de l'Est de la République. Évidemment, ce qui vient de se passer de l'autre côté concernant l'élection du nouveau président de la Commission, bon, je ne dis pas que les gens sont sceptiques, les gens attendent ce qui va produire comme action. Parce que depuis que l'Union africaine existe, à mon sens, nous constatons que pour le cas du Congo, par exemple, on n'a jamais réglé le conflit de notre pays. Nous sommes attaqués depuis bientôt 30 ans par le Rwanda. Les gens continuent à mourir, mais l'Union africaine n'a jamais porté une solution à notre préoccupation. Et donc,
voilà, maintenant on a élu monsieur Mahamadou Ali Youssouf qui est un Djiboutien, mais après des réformes on le sait qui avaient été initiées par Paul Kagame quand il était président de cette union. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre du Djiboutien Youssouf?
Évidemment, je ne peux pas faire la spéculation parce que la spéculation à mon avis n'est pas du domaine de la science. Il faut vivre la réalité. Et donc, peu, en mon sens, estimer que les choses vont changer autrement compte tenu de la capacité d'action qu'il possède et l'expérience qu'il a dans le domaine politique. Voyons voir, on ne peut pas prédire ce qui va se passer demain, mais on peut anticiper. Mais je lui souhaite beaucoup de chance et en espérant que le Congo y trouvera son compte.
Le président angolais qui était le médiateur dans la crise entre le Rwanda et la RDC, maintenant le président de l'Union africaine, donc laisse ses rôles à un autre ou à d'autres chefs d'État qui vont être choisis. Qu'est-ce que l'on peut attendre? Comment voyez-vous que les choses pourront aller puisque João Lourenço est parti?
Lourenço a essayé, à mon sens, de régler le conflit entre le Congo et le Rwanda, mais je dis bien qu'il n'est pas arrivé au bout de cette peine. Mais le résultat, à mon avis, n'a pas atteint le souhait des Congolais dans la mesure où, jusqu'à présent, la guerre continue et les conquêtes des branches armées continuent. Moi, je pense que Lourenço a la capacité d'action incroyable. J'estime que c'est un homme assez valable. Et la crise congolaise est tellement profonde. On ne peut pas le régler du jour au lendemain. Il va falloir revoir toute la situation du Congo parce que la crise congolaise ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 60 ans que nous avons perdu nos repères. Le Congo a perdu tous ses repères historiques. Et à partir du moment où nous n'avons plus de repères, on peut avoir un savant pour régler notre problème. On ne trouvera pas de solution. Parce que pour trouver une solution à cette préoccupation, il faut absolument qu'on commence par situer les repères. Puisque le Congolais ou le Congo a perdu tous ses repères historiques.
Bamba Dilelo, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Sénégal, la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques de 2019 au 31 mars 2021 est au cœur des tensions politiques. Pouvoir et opposition s'accusent alors que le document révèle plusieurs anomalies dans la gestion du régime sortant. Les précisions de notre correspondant Wahani Johnson Sambou.
Une dette à près de 100% du budget au lieu de 74%. Un déficit budgétaire de plus de 12% contre près de 4% précédemment annoncé. Une masse salariale en évolution de près de 75%. Les données sont accablantes pour l'ancien régime. Elle confirme surtout le Premier ministre qui accuse ses prédécesseurs d'avoir maquillé les chiffres de l'économie. Cheikh Diba, ministre des Finances.
Le déficit budgétaire moyen annuel de 11,1% enregistré sur la période 2019-2023 et le niveau d'endettement atteignant 99,67% du PIB en décembre 2023 illustre la gravité des déséquilibres financiers accumulés ces dernières années.
Des statistiques contestées par l'ancien régime qui dénonce une manipulation et met en cause la crédibilité de la Cour des comptes. Maître Aissata Tassal, député et ancienne ministre de Macky Sall.
C'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus vite que ce qui a été fait dans cette affaire.
Et au milieu de cette bataille chiffrée, difficile pour les non-initiés de se retrouver. Mais alors que la polémique enfle, certains préfèrent rester prudents. Malamine Fernandez est journaliste.
C'est polémique, souvent je dis que c'est inutile. Moi je ne peux pas lire comme ça financièrement le rapport de la Cour des comptes. Non, le rapport est sorti. On n'a qu'à attendre d'abord les conclusions de tout ça. Maintenant on n'a qu'à attendre la justice faire son travail sur là-dessus.
La Cour des comptes n'a pas encore annoncé une réaction. Mais face à la polémique, les autorités disent ne pas exclure des poursuites judiciaires contre des responsables du régime sortant. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Bénin, la question du troisième mandat continue d'agiter les débats politiques. Plusieurs recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle contre des proches du pouvoir qui ont laissé penser que le président Patrice Talon pourrait faire un troisième mandat. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
En 2026, Patrice Talon va boucler son deuxième mandat. Le président de la République béninoise n'entend donc pas embarguer un troisième. S'il a été obligé de le redire, c'est parce qu'au Bénin, un adepte du FA a cru recevoir un message des divinités pour le maintien du président actuel au pouvoir. Ce dernier n'entend pas céder au chant des flatteurs.
Et moi, j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne. Mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule, peut-être de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République.
Pour l'ancien président de la Cour constitutionnelle, certains cadres proches du pouvoir doivent cesser de jouer avec le feu. Théodore Olo.
L'alternance permet de découvrir de nouveaux talents. On vante les qualités du président Talon aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu alternance, est-ce qu'on aurait découvert ces talents? De même, si le président Talon s'en va parce qu'il n'est pas immortel, d'autres peuvent arriver, il peut faire mieux ou moins que lui. Dit qu'il doit faire trois mandats, c'est appelé à violer la Constitution. Et nous avons déclaré ses propos contraires à la Constitution.
Au niveau de la population, on préfère se fier au président qui a assuré être au thème de son deuxième mandat constitutionnel.
Les gens se disent que Talon est en train de changer les choses pour pouvoir se préparer un troisième mandat, mais non. Talon fait ça pour le Bénin, Talon fait ça pour que la future génération profite d'un Bénin épanoui. Donc Talon, c'est pas évident qu'il veuille prêter un troisième mandat.
Et la Constitution l'a bien dit, un président a droit à un mandat de 5 ans qui est renouvelable une fois. On a dit une seule fois, donc on a confiance que le président ne pense même pas faire un troisième mandat. On compte sur lui, voilà.
Je ne pense pas qu'il veuille soulever la population, qu'il respectera la Constitution. À la lettre.
Et ce n'est pas le porte-parole du gouvernement qui dira le contraire. Selon Wilfried Léandre Rumbidji, le sujet n'a pas sa raison d'être.
Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir. Même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer. Le débat sur troisième mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas, pas plus qu'il n'existera.
Pour le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, ce débat n'a aucun fondement juridique ou politique. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
L'administration Trump agit rapidement avec ses plans d'expulsion de masse en envoyant certains migrants à Guantanamo Bay à Cuba et en expulsant rapidement d'autres. Davantage avec Aline Barros, spécialiste de l'immigration à la VOA, récit d'Ilidico.
Le premier jour de son mandat, le président Donald Trump a déclaré que l'immigration illégale était une urgence nationale. Il a promis de donner suite à une promesse clé de sa campagne et d'expulser des millions d'immigrés sans papier. Les avocats affirment que les migrants aux États-Unis qui risquent d'être expulsés ont droit à une procédure régulière. Anna Flamm est une avocate spécialisée en droit de l'immigration et directrice des politiques à l'International Refugee Assistance Project.
Vous recevez un document d'inculpation qui ouvre une procédure à votre encontre et vous permet de demander l'asile ou de défendre votre droit d'être aux États-Unis. À la fin de ce processus de demande d'aide à l'immigration, vous devez vous rendre au tribunal de l'immigration et voir un juge de l'immigration. Si vous n'obtenez pas gain de cause à l'issue de cette procédure, vous recevez un ordre d'expulsion.
Selon Anna Flamm, l'expulsion peut être rapide ou longue.
Il est possible que quelqu'un soit expulsé après des mois ou des années de lutte. Il est aussi possible que quelqu'un soit expulsé après avoir cherché à entrer aux États-Unis ou après avoir vécu ici pendant de nombreuses années, dans les heures ou les jours qui suivent sa mise en détention, en vertu de la dernière politique du président Trump.
Depuis le 21 janvier, les autorités fédérales ont arrêté plus de 8 200 personnes et demander l'aide d'autres organismes chargés de faire respecter la loi. L'administration a élargi le recours à la procédure d'expulsion accélérée qui permet aux agents de l'immigration d'expulser les sans-papiers sans passer par un tribunal. Tom Oman est le responsable de la politique frontalière de Trump.
Nous devons en faire plus. C'est ce que nous cherchons à faire en ce moment. Nous cherchons à créer plus d'efficacité pour en faire plus.
L'administration utilise la base militaire de Guantanamo Bay à Cuba pour détenir certains sans-papiers. De nouveau, Tom Oman.
Ce sera un autre endroit où nous aurons 30 000 lits de migrants. Le président Trump s'est engagé à ce que les pires des pires aillent à Cuba.
Mais les contestations juridiques ont déjà commencé. Un juge fédéral du Nouveau-Mexique a récemment bloqué le transfert de 3 immigrants vénézuéliens vers Guantanamo. Des défenseurs des droits de l'homme ont intenté un procès à l'administration Trump pour avoir détenu des prisonniers à Guantanamo sans qu'ils aient accès à un avocat ou à leur famille. De nouveau, Anna Flamm.
C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le gouvernement américain détient des personnes sur le sol américain et les transporte à Guantanamo.
Un fonctionnaire du ministère de la Sécurité intérieure a déclaré à la VOA que Guantanamo Bay détenait actuellement des personnes ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion définitif, y compris des criminels violents. Bien que des contestations juridiques soient en cours, l'administration continue d'appliquer ses mesures d'expulsion.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Et je vous dis comme d'hab, job blessed, peace Africa.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouidraogo, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Et vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.